Salut, c'est Toasted et bienvenue à la musique en coulisses. Pour cette spéciale 100 ans de la radio, je vais vous parler de l'évolution sonore et des émissions. Le 20 janvier 2020, Roche-Olivier Maistre, président du CSA, lançait l'idée d'une grande fête de la radio pour permettre aux Français et à l'ensemble des stations de radio de métropole et d'outre-mer de célébrer ce média de cœur. Grâce à la mobilisation de tous, cette idée est aujourd'hui devenue réalité. Le CSA et l'ensemble des radios partenaires sont aujourd'hui heureux d'annoncer que la première fête de la radio se déroule dans toute la France depuis le 31 mai jusqu'au 6 juin. Cette semaine spécialement, les radios et les auditeurs peuvent revivre l'histoire de ce média qui fête cette année le centenaire des premières émissions radiophoniques depuis le site de la Tour Eiffel. Les 40 ans de la libération de la bande FM et l'accélération du déploiement de la radio numérique terrestre, le DAB+. Et donc, cet anniversaire sera en effet l'occasion de mieux faire connaître tous les atouts de la technologie numérique DAB+, qui ouvre un nouvel horizon à ce média. La radio DAB+, c'est quoi ? Le successeur numérique de la FM qui rencontre de plus en plus ses limites de capacité. Aujourd'hui connue sous le nom de radio numérique terrestre, la RNT, la bande FM est saturée dans plusieurs régions de France. Alors il n'y a plus de place pour des nouvelles radios et donc le choix des auditeurs reste limité. En DAB+, plusieurs radios émettent sur une seule fréquence. Ces radios sont groupées dans un multiplex ou un ensemble et un récepteur DAB+, à son tour, divise le signal du multiplex reçu en radio individuelle. De cette manière, il y a plus de radios qui peuvent diffuser leurs programmes. Il y a donc plus de choix pour l'auditeur. Par exemple, à Lille, 38 radios sont disponibles en DAB+.
Cause it's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around.
Début novembre 1921, le poste de la Tour Eiffel commence discrètement à diffuser des émissions musicales de manière plus fréquente afin de perfectionner son matériel encore peu adapté à la diffusion de la voix et encore moins de la musique. Le programme consiste généralement en début de soirée à la lecture de la météo, suivi d'un petit concert et d'une revue de presse. C'est la première radio publique en France. La longueur d'onde est de 2650 mètres et la puissance de 900 watts. Ridicule par rapport à aujourd'hui. Voici une des premières chansons diffusées. Il s'agit du ténor italien Enrico Caruso, J'ai quand même un peu supprimé le bruit du souffle qui régnait pas mal à l'époque. Voilà, je vous assure que j'ai vraiment enlevé beaucoup de bruit, c'est pour ça qu'il manque un peu quelques fréquences, mais sinon avec le mastering d'aujourd'hui c'était complètement inaudible, donc il valait mieux. Voilà, il faut savoir que les artistes et comédiens de théâtre étaient déconcertés face à tant de technologies à l'époque, déjà par le manque de public et surtout par les demandes des techniciens son, qui leur demandait de rester dans un cercle tracé par terre afin d'optimiser la prise de son, par exemple. Je vous passe l'histoire de l'évolution des émissions. Avant, on écoutait la radio via un récepteur amplificateur à lampe, et il fallait rajouter un haut-parleur, et ça pesait des dizaines de kilos, et autant dire que c'était le poste de la maison. Et quand arriva le transistor, composant léger et plus rapide, moins encombrant, il devient, à force d'optimisation, le poste radio qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est aussi à cause de ce composant-là qu'on dit qu'un poste radio s'appelait un transistor. Hein. Les anciens, ils disent « va chercher le transistor ». Et ce mois-ci, dans la rubrique bizarrerie du mois, je vais vous parler du microphone bouteille. Mais avant, encore un peu d'histoire. Le premier transmetteur électro-acoustique opérationnel est sans doute dû à l'ingénieur américain David Edward Hughes. Il imagina en 1878 un appareil capable d'être impressionné par des sons très faibles et auquel il donna le nom de microphone. Et à l'époque, il était composé d'un petit barreau de charbon de cornu taillé en pointe et maintenu par deux cavités et creusé dans une plaquette de charbon de cornu. Le son faisait vibrer le barreau et les variations de résistance au contact des pointes modifiaient le courant. Quand vient le micro-bouteille, le CMV3, The Hitler Mic, pour les connaisseurs, condensateur microphone Vertakron, je sais pas comment on dit en allemand, c'est un microphone à condensateur amplifié quoi, appelé aussi The Bottle, à cause de sa forme si particulière. C'est un micro statique omnidirectionnel à amplification à lampe de 3 kg. Le CMV3 Telefunken Photo fut le premier micro statique à être produit en grande quantité. Et ce micro-là, c'est la révolution dans un monde dominé par le micro à charbon à l'époque. On n'a jamais eu un son aussi pur, aussi propre, aussi clean. Malgré sa taille, il était utilisé pour des interviews et on dirait un mini extincteur. Alors les mecs, quand ils étaient là dans la rue à faire une prise son pour un interview ou autre chose, c'était vraiment comique. Ils avaient des drôles de postures et ça devait peser à la longue. Alors je vous ai trouvé un extrait sonore de ce micro-là, c'était pas facile et je vous laisse écouter.
Мечтите ми в сърцето си приеми тази странница в рая безгласно и прошепни че си е у дома Thank you. there's a chance that you care. Won't you answer the fervent prayer of a stranger in paradise? Don't send me in dark despair from all that I hunger for, but open your angel's arms to this stranger in paradise and tell her that she need be a stranger no more.
Pur, mais un peu criard sur certaines fréquences. Hein. Aujourd'hui, on est un petit peu plus pointilleux, on a du matériel plus performant et notre oreille s'est développée, on est plus exigeant. Et c'est vrai que ce micro-là, à l'époque, ça devait être une vraie merveille. Alors qu'aujourd'hui, on dirait c'est un micro plutôt moyen, quoi. Enfin, il faut savoir qu'aujourd'hui, les animateurs de radio dans les grandes radios travaillent avec des micros type Neumann BCM 104. Alors, c'est des micros broadcast à condensateur large membrane. C'est des micros cardioïdes avec des grilles anti-pop intégrées. C'est des micros qui ont la capacité de capter des niveaux sonores élevés à 50 cm de distance du micro avec un préampli adéquat. Ça coûte beaucoup moins cher que les micros bouteilles d'antan, malgré qu'ils soient vers les 1000 euros pour un outil de travail professionnel, c'est vraiment peu. Et ça restitue très clairement le son de la voix et ça garde quand même une petite chaleur telle que si on avait mis un ampli préampli à lampe derrière. Donc faut dire ce qui est, c'est quand même des micros aujourd'hui, c'est surprenant quoi. Voilà pour l'anecdote des micros. Voilà, j'espère que cette émission vous aura plu et que vous avez fêté dignement ces 100 ans de la radio. Le mois prochain, on va aller dans les studios de Coldplay faire un petit tour. Non, je plaisante, hein, bien sûr. On va parler de Coldplay, j'ai quelques anecdotes à vous formuler. Aussi, on va parler de leurs prestations live, on va parler du dernier album. Des enregistrements studio, enfin il y a beaucoup de choses à dire sur ce groupe hyper populaire et j'espère que vous serez là le mois prochain en tous les cas. C'était Toasted, à bientôt pour la musique en coulisses.